Bonjour, bonjour, Yves, au micro-micro de 24 notes secondes pour une nouvelle émission qui ne dérogera pas à la tradition en vous appelant, non, en vous rappelant ou en vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale pertinente ou pas que les petites images qui bougent jusque dans votre téléphone portable. C'est dire où nous en sommes arrivés. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien je pense que les fidèles de l'émission vont tomber de leur chaise, mais nous allons consacrer cette émission à Luc Besson. Mais oui, notre Luc national, notre râleur patenté, le sauveur du cinéma français, bref. Luc Paul Maurice Besson, né le 18 mars 1959, quelque part dans le 15e arrondissement de Paris, et qui sans doute a bien fait de garder le prénom Luc, puisque le grand bleu de Maurice Besson, je pense pas que ça l'aurait fait trop. Le brave garçon, eh bien justement, ses parents sont instructeurs en plongée sous-marine au club Méditerranée, donc pas vraiment le genre chanteur d'opéra, et auteur de romans à succès. Et évidemment, le jeune Luc s'engage d'abord dans cette carrière, à savoir la plongée de haut niveau, mais un accident, dont ma petite fiche ne précise ni l'origine ni la nature, l'empêche de poursuivre la plongée à haut niveau. Du coup, l'homme se tourne vers le cinéma et devient très rapidement assistant réalisateur, aussi bien en France qu'aux États-Unis, avant de tourner en 1981 son premier court-métrage, et à vrai dire son dernier court-métrage, puisque à ma connaissance il n'en a pas fait d'autres, à part les clips avec Isabelle, mais ça ne compte pas comme court-métrage, ça s'appelait L'Avant-Dernier. Ensuite, eh bien, dès 1983, Luc Besson tourne son premier film en tant que réalisateur, avec de tout petits moyens et des gens qui, à l'époque, sont peu connus, même s'ils le deviendront, comme Éric Serra à la musique. Éric Serra qui avait déjà écrit la musique de son court-métrage. Et puis Pierre Jolivet, Jean Bouise et un dénommé Jean Reynaud dans les rôles principaux du Dernier Combat. Un film tourné en noir et blanc et en cinémascope, ce qui est déjà quand même un bel exploit. En 1983, on tournait un peu plus en noir et blanc que maintenant, mais en tout cas pas beaucoup. Alors en cinémascope, par contre, on ne tournait plus, mais Luc Besson avait considéré que pour cette histoire post-apocalyptique qui se passe sur la Terre après un cataclysme, eh bien, le cinémascope permettait de mieux rendre les effets qu'il souhaitait. Et de fait, coup d'essai, coup de maître, puisque Le Dernier Combat obtient le prix spécial du jury et le prix de la critique au défunt festival d'Avoriaz en 1983. Et la carrière de l'homme va être lancée. Avant de la lancer, on va écouter évidemment un extrait de cette bande originale, Le Dernier Combat, Éric Serra, dans 24 notes.
Thank you.
ben je sais, ça surprend, mais c'est Éric Serra et Maurice, pardon, Luc Besson, un extrait de la bande originale du Dernier Combat, un film donc qui présentait, entre autres originalités, celui d'être en noir et blanc en cinémascope et muet. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs donc déjà cités, et notamment Jean Reno, n'y parlaient pas. Ce qui était quand même une grande conquête qu'après, on a perdu. Mais ça n'est pas le problème. En tout cas, le film est suffisamment remarqué pour que la Gaumont, notre grande société de production, consentit à accorder à Luc Besson un budget sans commune mesure avec celui du Dernier Combat pour son film suivant. Ça s'appelait Subway. On ne va pas écouter un extrait de la bande originale de tous les films de Luc Besson, mais en tout cas, Subway, qui sortit donc en 1985, avec dans les rôles principaux Adjani, Christophe Lambert avec les cheveux blancs, Richard Boringer, Galabru et Jean-Hugues Anglade, sur lequel je reviens, eh bien, rencontra lui aussi un très très gros succès qui permit à Luc Besson d'entreprendre un film qui lui tenait d'autant plus à cœur que, comme je l'ai rapidement esquissé, eh bien, il retrouvait à la fois ses parents et son enfance. Le film, peut-être l'aurez-vous deviné, surtout si vous êtes des fans du Grand Bleu. Fans du Grand Bleu sur auditeur de 24 notes secondes. Ma foi, ça existe peut-être, il faudrait que je fasse des recherches. En tout cas, en 1988, eh bien, Luc Besson présenta au Festival de Cannes ce film avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette dans les rôles principaux, l'histoire de messieurs, surtout des messieurs qui font de la plongée en apnée, qui essaient, si je comprends bien, mais c'est pas trop difficile à comprendre, de plonger toujours plus bas, toujours plus longtemps. Ma foi, il y en a que ça intéresse, et en tout cas, le film qui est accueilli au Festival de Cannes de façon catastrophique, rencontre très rapidement un très très grand succès commercial par contre, puisqu'il fera 10 millions d'entrées rien qu'en France et que sa bande originale se vendra à 2 millions d'exemplaires, là encore rien qu'en France, et qu'elle vaudra à Éric Serra, puisque c'est bien évidemment toujours de lui qu'il s'agit d'obtenir cette année-là le César de la meilleure musique de film. Comment faire autrement? On va bien évidemment en écouter un extrait. Le Grand Bleu, Luc Besson. Je mets mes palmes dans 24 notes secondes. Et puis mon masque, parce que moi en apnée, il ne faut pas exagérer. Et on y va.
Thank you.
Ben là, vous ne pourrez pas dire que vous n'en avez pas eu pour votre argent. Un large extrait de la bande originale du Grand Bleu, une musique signée d'Éric Serra, un film de Luc Besson qui rencontra un succès absolument colossal. Il paraît qu'il y a encore des gens, sans doute des filles, qui continuent à savoir ce que fait Jean-Marc Barque tous les jours dans la vie. Jean-Marc Barque qui, dans ce film, interprétait le rôle de Jacques Mayol, un véritable plongeur en apnée. Ma petite fiche qui ne ment jamais, je vous le rappelle, indique que, avant de donner le rôle de sa vie à Jean-Marc Barre, qui n'a pas fait grand-chose de plus, il faut bien le dire depuis, eh bien, Luc Besson l'avait proposé successivement, je cite, dans l'ordre peut-être d'apparition, à Christophe Lambert, Mickey Rourke, Matthew Bodine, Mel Gibson et Gérard Lanvin. Alors personnellement, j'aurais adoré voir Gérard Lanvin dans Le Grand Bleu, mais putain, qui sait, qui m'a foutu des palmes pareilles. Ça aurait été quand même autre chose, peut-être. En tout cas, c'était l'occasion eh bien, pour Luc Besson d'un succès commercial qu'il continuera à concrétiser, puisqu'en 1990, on verra Nikita avec, dans le rôle principal, Anne Parillo, qui était à l'époque sa compagne. Ceci explique sans doute cela, dans le rôle d'une tueuse impitoyable, et là encore Anne Parillo dans le rôle de sa vie, puisque, à ma connaissance, depuis, on ne l'a plus guère vue. Ensuite, il y aura Atlantis, film documentaire que beaucoup auront pris pour Le Grand Bleu 2, funeste erreur. Puis il y eut Léon avec Jean Reno en nettoyeur. Allez, on ne peut pas voir et écouter des extraits de tout, donc on va passer à une super production pour laquelle Luc Besson rejoignit les États-Unis avec sa nouvelle compagne, en l'espèce, Mai Wen, qu'il avait rencontrée à l'âge de 15 ans. Je vous laisse deviner. Et ce film, eh bien, avec Bruce Willis dans le rôle principal, c'était un film de science-fiction jouissif dans lequel on mêlait, comment dire, les apports à l'américaine, des apports plutôt occidentaux, européens, à la française, puisque les décors du film étaient signés de Mébius, Jean Giraud, génie regretté, et de Jean-Claude Mézières, l'homme de Valérian, on y reviendra, et que le costume était conçu par Jean-Paul Gaultier, tandis que pour le reste, eh bien, les acteurs étaient ils étaient américains, Bruce Willis, Mila Jovovich, qui allait devenir la nouvelle compagne de Luc Besson, et Gary Oldman. Mais ma foi, le tout était plutôt bienvenu. On va écouter un extrait de cette bande originale, The Fifth Element, dans 24 secondes. reggae bien graisseux, extrait de la bande originale du cinquième élément, toujours musique d'Éric Serra, mais je n'aurais même pas besoin de le préciser. En tout cas, jusqu'à la fin de cette émission, un extrait de la bande originale du cinquième élément, un film de Luc Besson, notre héros du jour, qui l'eût cru tourné en 1997 et qui rencontra un succès considérable puisque ce fut le film français, entre guillemets français, qui remporta le plus d'argent aux États-Unis, en tout cas jusqu'à Taken. Alors, considérer Taken comme un film français, ma foi, c'est ma petite fiche qui le dit et elle ne ment jamais, ma petite fiche, je vous le rappelle. Ensuite, puisqu'il faut passer un peu plus rapidement pour écouter beaucoup de musique, eh bien, Luc Besson, avec sa nouvelle compagne, vous l'avez compris, Mila Jovovich, tourna en 1999 une version de Jeanne d'Arc, de laquelle on pouvait craindre le pire. Eh bien, c'était pas si mal que ça, il faut le reconnaître. Et en tout cas, ça rencontra aussi un grand succès, 3 millions de spectateurs français. Il faut d'ailleurs souligner que les spectateurs français sont de loin les plus fidèles partisans de Luc Paul Maurice Besson. Mais ma foi, sur ce coup-là, ils étaient bienvenus. On ne pourra par contre pas en dire autant de la trilogie qui suivit. Il me semble me souvenir qu'après Jeanne d'Arc, Luc Besson avait dit qu'il ne tournerait plus de film. Et puis après, il est revenu sur sa parole, grossière erreur, puisqu'il aligna entre 2006 et 2010 la série Arthur et les Minimoy, avec des personnages qu'il avait lui-même imaginés, desquels il avait d'ailleurs fait dans un premier temps des livres, et ensuite, hélas, il en fit aussi des films, et en l'espèce une trilogie qui ne restera certainement pas dans les mémoires. De la même manière, et ça c'est les hasards de la vie qui le font, que son film suivant, consacré à Aung San Suu Kyi, à l'époque prix Nobel de la paix, qu'il est toujours, mais avec une étoile un peu ternie. Le film s'appelait The Lady et il ne rencontra pas un très très grand succès non plus. Je m'en voudrais aussi de ne pas évoquer que, en plus d'être réalisateur et le plus souvent scénariste de ses films, eh bien, Luc Besson l'est aussi de films d'autres et de beaucoup, beaucoup d'autres films, avec notamment la série des taxis, la série des transporteurs et plein, plein d'autres choses qui sont généralement des films de garçons avec plein de voitures et d'explosions dedans. Mais peut-être que je caricature un peu et l'homme et la chose. D'ailleurs, je le caricature d'autant plus que l'extrait que nous allons écouter maintenant, elle est pour un film dans tout autre genre, lui aussi bienvenue. Une adaptation en 2010 de la bande dessinée, ou plutôt des bandes dessinées, consacrée aux aventures de cette chère Adèle Blanc-Sec, de Jacques Tardy, un homme délicieux et qui racontait, donc quelque part à la fin du 19e, début du 20e siècle, des histoires mêlant histoire et fantastique. Et en l'espèce, eh bien, Luc Besson décida d'adapter une histoire consacrée à une momie égyptienne avec Louise Bourgoin, non pas dans le rôle de la momie, mais dans le rôle d'Adèle Blanc-Sec. Alors là encore, tout comme pour Jeanne d'Arc, on pouvait craindre le pire. Eh bien non, c'était plutôt pas malvenu. Et on va en écouter un extrait de la bande originale dans 24 secondes.
Thank you.
Voilà, c'est toujours d'Éric Serra et c'est toujours de Luc Besson, un extrait de la bande originale de Des aventures d'Adèle Blanc-Sec, un film tourné en 2010. Moi, je suis plutôt bienvenue. J'ai évoqué The Lady, j'évoquerai encore plus rapidement le film tourné par Luc Besson en 2013 avec Robert De Niro et Michele Pfeiffer. Ça s'appelait Mala Vita, une histoire assez grotesque de vengeance, la mafia, qui avait pour principal intérêt de permettre à Luc Besson d'inaugurer ses studios, de la Cité du cinéma qu'il avait fait construire à Saint-Denis. Alors, quand même quelque chose d'assez ambitieux et dont il faut reconnaître l'intérêt et le volontarisme, l'occasion de faire des studios, évidemment, une école de cinéma et plein d'autres choses dans une ville un peu sinistrée, dans laquelle il y a le Stade de France, c'est vous dire. Et sur le cinéma, on peut reconnaître au moins à Luc Besson, râleur patenté, d'être aussi un homme qui fait des choses, ma foi. C'est plutôt bienvenu, et comme dirait l'autre, il fait aussi des films, pas toujours bienvenus, mais en tout cas dont la plupart sont des grands succès, ça aura été aussi le cas en 2014, toujours tourné dans les mêmes studios de Saint-Denis, de Lucie, avec Scarlett Johansson dans le rôle principal, une histoire un peu abracadabrante, mais qui là encore a été sanctionnée par sa réussite commerciale, puisque c'est a priori, m'a dit ma petite fiche, qui ne ment jamais, le deuxième, ou je ne sais plus, le troisième plus gros succès non américain de toute l'histoire du cinéma mondial. Quand je dis non américain, là encore, c'est à prendre avec quelques pincettes, en tout cas. Hélas pour lui, ce succès commercial considérable donna l'occasion à Luc Besson de se lancer dans un projet encore plus ambitieux à partir de 2015, en l'espèce l'adaptation à l'écran de la bande dessinée de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Jean-Claude Mézières, déjà cité tout à l'heure, Valérian avec Laureline, un film sorti en juillet 2017 et qui là encore avait écrasé tous les superlatifs, certainement, évidemment, le film français le plus cher de toute l'histoire du cinéma, etc., etc., tout ce que vous voulez. Et parmi les superlatifs qu'on peut lui accoler, eh bien, il y a aussi certainement celui de la plus grande catastrophe commerciale ou presque de tous les temps, puisque ce fut un insuccès total au box-office américain. Je crois que le film y est resté une semaine. Les Chinois ont craché dessus dès qu'il est arrivé. Seuls nous, encore une fois, Français, lui avons fait un succès, mais... J'ai honte de le dire, chers auditeurs de 24 secondes, nous ne sommes que de tout petits, et ce n'était pas suffisant pour que Valérian et la Cité des Mille Planètes, c'est le titre du film, ne soient pas un échec commercial si considérable qu'il oblige désormais son auteur à envisager Lucie 2, Taxi 12, Le Transporteur 14, bref, que des trucs dont il est assuré que ça va pouvoir rapporter le maximum de pognon. C'est pas ça qui va nous empêcher d'écouter en conclusion, en apothéose, un extrait de la bande originale de ce film, Valérian et la Cité des Mille Planètes, d'autant plus que elle est signée d'un des compositeurs dont les fidèles auditeurs de 24 secondes savent qu'il est un de mes all-time favorites, en l'espèce Alexandre Desplat, notre grand Alexandre Desplat, qui, pour l'occasion, eh bien, avait faussé la préférence à Éric Serra, qui peut-être s'en frotte les mains du coup, et qui donc avait signé cette partition sur laquelle nous allons conclure. Allez Luc, on t'aime bien quand même. Ben voilà, 24 secondes, c'est déjà fini. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.